Paris Central, je suis accompagné de tonton. Comment vas-tu, tonton?
Bah,
Ça va
super, et toi?
tranquille. Et on va parler des neufs, parce qu'au Paris Saint-Germain, c'est un manque qu'on a depuis je ne sais pas combien d'années. La dernière fois qu'on avait un joueur capable de récupérer un ballon de la tête, ça commence à faire pas mal de temps maintenant. Et ce qu'on vous propose, c'est qu'on va commencer par la liste des noms comme ça, donner notre ressenti un peu sur chaque nom. Et ensuite de ça, on va se demander quelle piste serait à la fois souhaitable pour le Paris Saint-Germain, dans le contexte avec ou sans Kylian Mbappé. Et est-ce que c'est crédible? Est-ce que c'est une piste qui peut être atteinte ou pas? Et les noms auxquels on va parler, enfin, je les donne tout de suite, hein, ça va être Osimhen, Openda, Kane, Vlahovic, Félix, Ramos et David. Et on va commencer le petit listing et on commence donc par Osimhen. Quelle est ta lecture d'Osimhen, tonton?
Bah, Osimhen, justement, c'est un joueur qui va coûter très cher. Parce qu'il faut le rappeler, Aurelio De Laurentiis et Naples avaient casqué 80 millions quand même pour ce joueur qui a progressé, qui a un long contrat. Et si vous nous suiviez l'été dernier, vous connaissez mon avis sur le fait de négocier avec la Serie A et les clubs italiens. C'est compliqué. On parle de clubs qui t'achètent des joueurs à 3 millions, ne veulent pas faire de concessions sur les prix d'achat, veulent revendre super cher leurs joueurs. Donc Osimhen a lui-même expliqué que c'était compliqué avec Mbappé de s'imposer au sein du Paris Saint-Germain. Et forcément, j'en aurais pas la même lecture. Si Mbappé reste au Paris Saint-Germain, ça pourrait être un complément très intéressant pour Mbappé. Cependant, ce n'est pas lui que je prioriserais si Mbappé reste au club. Cependant, si Mbappé est vendu et qu'il est vendu cher, ça devient une option crédible parce qu'on aura de l'argent pour le récupérer. Et en l'absence de Mbappé, ben son profil sera peut-être plus cohérent.
Bah, j'ai exactement la même lecture que toi. C'est pas tout à fait le même joueur que Mbappé. Enfin, c'est même pas du tout les mêmes joueurs, mais ils ont vraiment un gros point commun, c'est qu'ils font leurs appels de la même manière. Ils font leurs appels du même endroit. Et ils auraient, en fait, c'est ce que tu te retrouverais avec là où tu avais un Cavani qui savait adapter son appel à l'autre joueur. Est-ce que Mbappé ou Osimhen, s'ils sont à ce poste-là sur le terrain, sauraient le faire? Je sais pas. Et j'ai l'impression que ça mènerait à une situation où tu en aurais un des deux qui devrait être sur une aile. Et c'est un problème qu'on a déjà vu plusieurs fois au Paris Saint-Germain qui a amené des cacophonies. Et donc Osimhen, qui est un joueur qui pour moi est sublime, avec Mbappé, ça serait tout sauf une bonne idée. Mais exactement comme toi, si jamais il y a Mbappé qui part, c'est une piste plus que crédible. On va attaquer avec la pépite belge de Lens, Loïs Openda. Quelle est ta lecture sur Openda du coup?
Louis Openda, j'en parlais quand j'ai fait le live sur ma chaîne de Red Bull, parce que Leipzig est très intéressé par le joueur depuis qu'Nkunku est amené à quitter le club. Et pour moi, ce n'est pas par hasard. Parce que Louis Openda, c'est un mec qui peut jouer attaquant de soutien, c'est un mec qui peut jouer neuf, et il peut même jouer ailier droit dans ma vision de comment tu augmentes le truc. Donc Louis Openda, en fait, finalement, ça peut être quand même une sacrée bonne affaire. Cependant, est-ce que c'est celui sur lequel on doit tout miser, surtout si on a de l'argent? Pas forcément, mais ça reste quand même un joueur que je trouve super intéressant. Avec Oussam Mbappé, de toute manière, parce qu'il n'a pas le même côté préférentiel en fait.
Tout à fait. Après, moi, j'ai juste un immense bémol sur ce joueur. C'est son jeu de tête. Il est capable de mettre des têtes, mais tu remarqueras que les têtes qu'il met, la majorité des têtes qu'il met, il les met, elles sont à 1m20, 1m30. On parle d'un joueur qui fait 1m65, quelque chose comme ça. Enfin, un joueur qui est très petit en taille. Et là, tout à l'heure, pour Osimhen, on n'en a pas parlé. Osimhen, c'est un cador de la tête. C'est un mec qui est capable de te récupérer des ballons qui sont limite à 2 mètres de haut. Enfin, j'exagère un peu, mais pas forcément beaucoup. Ce que tu n'auras pas du tout avec Openda. Et un des immenses déficits du Paris Saint-Germain, ça a été le jeu de tête sur les dernières années. Et pour moi, rien que pour ça, hein, alors que c'est un joueur très prometteur, on pourrait se demander, tu vois, quand tu parles de Leipzig, pour moi, ça fait méga sens parce que d'une certaine manière, il a passé la post-formation, mais il peut encore progresser. Et pour lui, aller à Leipzig, ce serait formidable, même si pour Lens, je souhaite qu'il reste chez eux. Mais pour le Paris Saint-Germain, ce serait peut-être un peu trop tôt, mais au-delà de ça,
Ah, quand
il a
même.
ce bémol de la tête.
Si je
Vas-y.
pouvais ajouter justement quelque chose par rapport aux faiblesses qu'il a dans le jeu, Luis Openda, en dehors du football, c'est quelqu'un de très professionnel, c'est quelqu'un qui est hyper investi et qui est vraiment dans la progression aussi bien dans le foot que en dehors. Je veux dire, j'ai vu des trucs sur lui, je sais pas si vous avez vu tourner sur les réseaux les images des interviews de Openda qui disait que il met des lunettes avec des certains filtres de couleur selon les moments de la journée pour que ses yeux ne soient pas trop surexposé, qui fait gaffe à ce qu'il mange, qui fait gaffe à ce qu'il boit, aux heures auxquelles il dort. Ouais, peut-être que c'est pas le meilleur joueur de la tête, mais je pense que si tu lui fais comprendre qu'il a intérêt à progresser dans cet axe de jeu pour avoir une place de titulaire au Paris Saint-Germain, ça peut être un joueur qui fera les efforts pour progresser.
Ça, oui, mais inévitablement.
Au niveau de la mentalité, en tout cas, c'est super intéressant.
Il y a un moment où il y a l'argument du physique qui rentre en compte. Il fait, il faudrait que je vérifie, mais je crois qu'il fait 1m64, 65 kilos, quelque chose comme ça. Ça ne sera jamais quelqu'un qui va s'imposer dans les duels de tête, à moins qu'il prenne 20 kilos en muscle, et à ce moment-là, il perdrait par ailleurs, etc. etc., etc. Donc, si tu veux, il y a une limitation physique. Si on n'avait pas ce défi.
Ouais, non, il est beaucoup plus grand que ce que tu dis, en fait.
Au
il fait 1m77.
Ah, tu mets un doute.
Et le grand Radamel Falcao n'est pas beaucoup plus grand et ça ne l'a pas empêché d'être un tueur dans les airs.
1m77, ah oui, ok. Ok, my bad. Bon, ouais, du coup, j'étais en train de dire des bêtises.
Non, mais en soi, tu as raison sur le fait
qu'il doit progresser. J'étais persuadé qu'il était petit.
Ouais, en soi, tu as raison sur le fait qu'il doit progresser de la tête. Donc, au final, c'est un axe de progression.
Et puis même quand tu le vois à Lens, je n'avais pas le sentiment qu'il était aussi grand que ça, mais du coup, ça arrive à dire des années. On va passer ensuite à Harry Kane. Quelle est ta lecture sur Kane?
Kane, comme tu aimes bien le dire, tu sais, c'est l'araignée à 8 pattes. C'est le truc, il te résout tous les problèmes. Il est neuf, il est faux neuf. En même temps, il peut jouer pivot. Le mec, il peut finir meilleur buteur et meilleur passeur de la Première Ligue en même temps. Il l'a fait deux fois. Que t'es Mbappé. Ben en fait, il pourra être le neuf dont a besoin Mbappé pour jouer en remise, en pivot, qui jouera le rôle de feu neuf pour le lancer, pour occuper la défense. Et même si tu n'as pas Mbappé, ben en fait, tu peux en faire ta figure de proue et dire ben, « Harry Kane, Mbappé, il part, c'est à toi qu'on va demander de mettre 50 buts par saison, ben, il le fera ». Donc au final, que Mbappé soit là ou non, c'est une excellente option dans tous les cas. Moi, la problématique que j'aurais, c'est plus le concernant. Est-ce que lui a envie de quitter la Première Ligue pour la Ligue 1? Et ça, c'est vraiment le bémol que je vais mettre.
Bah, voilà, moi, pour moi, on est du côté du rêve, mais après, on a le joueur presque parfait, il est bon de la tête. Il y a un aspect, d'ailleurs, qu'on n'a pas nommé chez Osimhen, qui est bon défensivement. Kane est encore meilleur défensivement, il est exceptionnel défensivement, il est exceptionnel offensivement, il sait orienter le jeu, il a un répertoire de passes extrêmement riche. C'est ce que tu disais, hein, par rapport à Mbappé, il peut être et servi par Mbappé, et appuyer, et servir d'appui pour Mbappé, et lancer Mbappé. Il est capable d'être dans les trois positions. Mais c'est même pas la peine de rêver. C'est le joueur presque parfait, mais t'as le Real dessus, ça répond beaucoup avec le Real aussi. Première Ligue, voilà, c'est mort, quoi. Prochain sur la liste, ça va être Vlahovic.
Ah, je te cache pas, j'ai une petite tendresse pour celui-là. Comment dire ? Grand attaquant, déjà dans le sens grand. Il est grand, il est physique. Il a une expérience de la Serie A et notamment de la Juventus, qui est un club avec beaucoup d'exigences et qui est un grand club. La Serie A, c'est le marché qui réussit le mieux au Paris Saint-Germain depuis l'arrivée de QSI depuis 10 ans. Oui. Vlahovic est dans une situation compliquée à la Juventus, mais pour moi, je l'apparente au contexte club, surtout quand on voit le développement de Matthijs de Ligt au Bayern en dehors de la Juventus, alors qu'il était en perte de vitesse dans ce club. Vlahovic, qui joue dans un club qui ne va pas jouer la Ligue des Champions et qui du coup ne demandera pas trop d'argent concernant le joueur. On sait que la Juve est capable de le laisser partir entre 60 millions et 65 millions. On sait que la Juventus est également intéressée par Icardi et Kitike, des joueurs que l'on peut toujours mettre dans la transaction pour faire baisser le prix du joueur. Et pour parler de son profil, ben, il peut jouer pivot, il est costaud, il sait tirer les coups de pied arrêtés, et ça c'est utile, et il est bon de la tête. Et il peut aussi bien être l'attaquant que tu lances en profondeur si Mbappé quitte le club, et il peut jouer pivot si Mbappé reste. Donc pour moi, en fait, un peu comme Kane, c'est une solution que tu peux utiliser, que Mbappé soit là ou non. Dans les deux cas, c'est un joueur qui m'intéresse beaucoup.
Alors, moi, j'aurais plus de mal sans Kylian Mbappé. Je pense qu'il a vraiment besoin d'un faux neuf autour de lui. Et je pense que c'est un truc qui lui fait défaut, notamment à la Juve. C'est cette espèce de responsable unique de toute l'offensive. C'est un joueur qui est extrêmement utile, qui sait planter ses buts. Sa saison n'explique pas le niveau du joueur. Mais c'est un joueur que je prendrais vraiment si on garde Kylian Mbappé. Et il y a cette espèce de truc avec Kylian Mbappé, mais ça, c'est presque qu'on sort du cadre de la vidéo. C'est est-ce qu'il reste et est-ce qu'il part? Mais au-delà, s'il reste, combien de temps il va rester? C'est-à-dire que tu es en train de construire une équipe pour un joueur qui, peut-être, au mieux, va partir dans un an. C'est compliqué. Après, Vlahovic, ça sera une réponse cohérente. Mais en seul neuf, surtout sans ailier, ça impliquerait des recrutements très très importants en cas de départ de Mbappé la saison suivante. Quoi. Ensuite, on va parler de Joao, mais pour moi, il n'avait pas sa place dans cette liste, mais tu as voulu le mettre, et donc je t'écoute.
Non, Joao, je l'ai mis dans le sens où tu n'en auras pas la même utilisation selon si Mbappé vient ou non. Bah, si Mbappé reste, je dis, excusez-moi. Si Mbappé il reste, au fond, on sait que c'est un ailier, mais qui a le rôle de buteur. C'est un buteur excentré, c'est lui qui est là pour mettre les 50 buts par saison. Il a besoin de quelqu'un qui va jouer avec lui, en fait, qui va lui permettre de mettre ses buts. Et en fait, Joao Félix, si tu gardes Mbappé, tu peux le faire évoluer dans le rôle de faux neuf parce que tu auras quelqu'un à côté qui sera le buteur et qui aura le rôle de mettre les buts. Si en revanche Mbappé part, Joao Félix n'en aura pas la même utilisation. Et je pense que, vu comment Luis Enrique joue, en fait, Joao Félix aura le rôle de l'attaquant de soutien ou de milieu offensif excentré. Donc je me dis que justement, c'est un joueur que tu peux utiliser mais qui n'aura pas les mêmes rôles en fonction de si Mbappé reste ou non au Paris Saint-Germain en tout cas.
Alors, si je résume, et je vais être un peu trop lesque, que tu m'en excuseras, si Mbappé reste, tu veux deux joueurs qui jouent exactement dans la même zone, et si Mbappé part, tu veux te retrouver avec Dani Olmo qui sert à rien.
Comment ça, Dani Olmo qui sert à rien? C'est un peu réducteur hein, comme propos.
L'Espagne,
C'est un peu
tu veux te
réducteur
retrouver
comme
avec
propos.
l'Espagne du dernier Euro ou dernier mondial, je sais plus, parce qu'avec
Non mais
Pacman, je sais
voilà,
trop.
non mais je voilà, tu parles de l'Espagne de Luis Enrique qui n'avait pas de temps de neuf, donc qui a dû un peu inventer ça. Et au passage, Dani Olmo avait été un super faux neuf en Espagne contre l'Italie à l'Euro 2000.
Oui, mais il y
Mais
avait
blague à part.
quand même un petit problème
Voilà.
pour la mettre au fond.
Alors justement, il y avait un problème parce que Luis Enrique était coach de sélection. Il ne pouvait pas ajuster son effectif sur le mercato quand il avait des manques à certains postes. Là, Luis Enrique, justement, s'il a des manques, il pourra faire un mercato. Et si par exemple Mbappé part et que João Félix est recruté dans cette optique d'être l'attaquant de soutien, il aura de l'argent pour acheter un neuf et il pourra surtout recruter un neuf qui lui correspond parce qu'il aura l'argent pour le faire.
Ok, bah, alors, si tu veux, dans ce cas-là, je vois au Félix, mais dans ce cas-là, on n'est plus dans la vidéo, parce que je vois au Félix avec Mbappé et pas le 9. Mais de toute façon, je tiens à préciser, à rester concentré, parce qu'il va y avoir un fight entre Tonton et Basto sur justement je vois au Félix, où ils vont aller bien au fond des choses, et ça sort peu de temps après cette vidéo. Mais oui, bah, tu vois, voilà, dans un cas, tu recrutes un attaquant, et pour moi, avec Mbappé, ça marcherait, mais le problème, c'est qu'ils ont tous les deux tendance à dézoner sur la gauche et ils ont tous les deux tendance à se retrouver dans la même zone. Et pour moi, du coup, ça sera très très compliqué. Mais on va passer. Alors après, on n'est plus dans des grands noms, mais on est dans des noms qui sont mine de rien prometteurs, dont on parle beaucoup pour l'un, un peu moins pour l'autre, mais à mon sens, à tort. On va commencer par celui dont on parle beaucoup, Gonçalo Ramos. Quel est avec eux?
Gonçalo Ramos, il y a des choses qui pourraient te faire croire qu'il est prêt et d'autres non. Dans le sens où, du fait de jouer à Benfica, il a déjà une expérience de la Ligue des Champions. Du fait d'être un jeune neuf portugais, et les neuf portugais performants, il n'y en a pas 30, ça lui a donné une place en sélection, et notamment l'opportunité de briller à la Coupe du Monde, on l'a vu contre la Suisse, il a eu l'occasion de claquer un triplé, donc c'est un joueur qui a quand même une certaine expérience des compétitions de haut niveau dont on attend au Paris Saint-Germain. C'est cependant un neuf encore très jeune qui n'a pas passé de palier supérieur, qui du coup le doute subsiste sur le fait qu'il puisse s'imposer dans un club avec beaucoup d'ambition et de stress, parce que c'est une réalité, le contexte parisien actuel n'est pas le même que celui du Benfica actuel, avec tout le respect que j'ai pour Benfica, qui même s'il prouve qu'il est un très grand club, actuellement il n'a pas les mêmes ambitions que les clubs du top européen. Est-ce que Gonçalo Ramos peut passer ce cap, c'est la grande question en fait, mais l'autre grande question, c'est surtout à quel prix? Parce qu'on sait qu'il a une clause libératoire hyper chère et on ne sait pas à combien veut négocier Benfica. Et si Benfica veut négocier à partir de 80 millions autour de joueurs, je pense que c'est une piste que je ne vais absolument pas privilégier.
Mais même à moins, moi, en fait. Même à moins, parce que tu l'as dit, enfin, toi, tu parles de Paris, mais c'est pareil, s'il devait se retrouver à la Juve, s'il devait se retrouver à Barcelone, au Real, s'il devait se retrouver à City, ou que sais-je, il y a un moment où la pression de résultat est tout autre. Ça ne veut pas dire qu'à Benfica, il n'y a pas de pression de résultat. Ça ne veut pas dire qu'à Benfica, il n'y a pas de presse locale avec des scandales et avec tout ce qu'on veut, etc. Et de
Surtout
pression.
concernant lui.
Elle existe, c'est juste qu'elle est tout à coup d'un autre niveau. Et le mec, pour l'instant, il n'a pas encore. Il n'a pas encore ça. Puis il y a encore, alors moi j'ai pas vu tous ces matchs, mais j'ai eu des échos. Il y a encore des matchs à côté desquels il passe. Il n'est pas non plus dans une constance absolue tout en étant à Benfica. Il a encore besoin d'au moins une saison à Benfica, de confirmer. On a vu beaucoup de joueurs. Il y a Nuno Mendes qui est un contre-exemple, mais lui c'est un fieur éclasse. On a eu beaucoup de joueurs partir trop tôt du Portugal. Et on en a vu par opposition, quand tu regardes à City, tu prends Dias. Bah Dias, il est resté 2-3 ans au Portugal de plus. Et ça a donné le joueur que c'est. Donc il y a un moment où faut savoir aussi les laisser grandir avant de tout de suite pouvoir les déménager et les mettre dans des joueurs où ils auront une exposition énorme et où ils vont très souvent, ils finissent par être écrasés par les attentes qui sont placées en eux. Enfin, pour moi, c'est juste trop tôt, en fait, Gonçalo Ramos. Tout le monde en parle parce que tout le monde s'enflamme justement à cause de ce match contre la Suisse. Mais à mes yeux, c'est ma lecture, hein, mais à mes yeux, c'est complètement démesuré.
Bah, c'est qui répond à une logique, je veux dire, joueur de Jorge Mendes, portugais.
Oui, bien sûr, oui.
Tu vois, il a de l'expérience, mais après, c'est comme j'ai dit, le problème, c'est ça va être le prix, en fait. Et en fait, comme tu dis, je vois pas le fait de payer le prix de ce joueur et de le prêter à un joueur Benfica pour qu'il se développe, surtout au prix qu'il va coûter, ça n'a aucun sens. Tu as besoin d'un œuf tout de suite, pas d'un œuf que tu vas prêter et qui va coûter entre 60 et 100 millions d'euros. Donc, pour ces raisons-là, ça semble compliqué.
Et reste le dernier, que moi, c'est un joueur que j'aime beaucoup, dont on entend très peu parler. Jonathan David, je commence vite fait. Moi, j'ai commencé par beaucoup le critiquer. Je ne comprenais pas ce qu'il avait, joueur. Je le trouvais nul, etc., etc. Et c'est un joueur qui a su se remettre en cause. Tu parlais tout à l'heure de l'hygiène de Penda. Je crois qu'on peut parler de celle de Jonathan David aussi. Lui, pour le coup, là où Gonçalo Ramos est le buteur de son équipe, de son équipe nationale, David, lui, est le leader de son équipe nationale. Et c'est pour partie, il la porte sur ses épaules. Il a une maturité que je trouve phénoménale. C'est un attaquant prodigieux. Après, est-ce que c'est l'attaquant qu'il nous faut ? C'est pas vraiment un attaquant de tête. C'est pas vraiment. Sans Kylian Mbappé, tu pourrais construire un futur avec lui. Mais pareil, comme pour Ramos, ça serait un futur. Ce serait peut-être un chouïa trop tôt. Mais toi, du coup, alors excuse-moi, je me suis permis cette fois de te devancer. Oh,
tu peux.
Quelle est ta lecture de Jonathan David ?
Non, comme tu as dit, c'est un joueur qui est intéressant, qui a des certaines caractéristiques, mais moi, il y a des freins, et je suis obligé de les mettre. Quelle expérience en Ligue des Champions ? Aucune. Le prix aussi, parce qu'à un moment, il faut dire ce qui est, c'est Lille qui vend, et Lille, ils veulent nous plumer. Le prix de Jonathan David, il est à 60 millions d'euros, et à ce prix-là, tu peux te payer Vlahovic, par exemple, pour faire un titre de comparatif. Vlahovic, il est peut-être un peu plus près que Jonathan David pour les grandes échéances, même si Jonathan David a l'expérience de Ligue 1 que n'a pas Vlahovic.
Coupe du monde en tant que titulaire et avec des matchs importants qui ont été remarqués.
Non, bien sûr. Après, Vlahovic, il n'a été pas titulaire. Lui, il est en concurrence avec Mitrovic. Hein. Il a plus de concurrence que Jonathan David en sélection, c'est clair. Et il n'est pas tombé dans la même poule aussi. Mais ça, c'est un autre problème. Comme je dis, moi, le problème de Jonathan David, en fait, il va se situer plus sur le fait que le joueur n'a aucune expérience en Ligue des Champions et qu'il va coûter super cher. Et au prix où il va coûter, ben, c'est dommage de surpayer le joueur. S'il avait été à un prix qui aurait été honnête et abordable, ça aurait pu être un joueur qui aurait pu être intéressant, sur lequel j'aurais tenté des choses. Mais entre le fait qu'il va nous coûter super cher, qu'il met beaucoup de buts sur pénalty et qu'il n'a pas d'expérience de Ligue des Champions, je trouve que ça fait beaucoup. Et ça, ce n'est pas pour dénigrer le joueur, hein, mais quand on le compare par rapport à la concurrence à laquelle on le met là pour recruter le 9 au PSG, ça fait beaucoup d'arguments qui jouent contre lui.
Ramos, mais c'est encore léger.
Bien sûr, tu vois, ça ne dit pas qu'il est nul, mais quand tu vois le nombre d'arguments contre qu'il y a envers lui,
après il y a juste une chose, c'est sur la capacité à par rapport notamment à la Ligue des Champions. Je peux me tromper, mais j'ai cette impression que c'est un joueur qui a une maturité qui est absolument phénoménale. Qui saura tout à fait compenser ça. Je pense pas que c'est un joueur qui serait influencé. Tu vois, ce que je craignais par rapport à Ramos, je pense pas que ce sera le cas par rapport à David. Tu vois, typiquement, je pense pas que ce joueur, en plus de ça, il vient de la Ligue 1, donc s'il arrive au Paris Saint-Germain, mine de rien, il connaît un peu le championnat. Mais je pense pas qu'il se laisserait écraser par cette pression-là, parce que je pense qu'il a la maturité nécessaire. C'est mon ressenti. Mais c'est vraiment un ressenti, ça.
Non, mais j'entends. Pas le droit de l'avoir.
Et du coup, bon, bah maintenant, on a fait un listing. Vient l'heure du choix, de la justification du choix et de tout ça, et surtout de quel est le choix le plus réaliste selon toi ?
Alors, moi, en réunissant toutes les données que j'ai dit, environ entre le prix, la faisabilité, la volonté du joueur de venir en club et tout ce genre de données, moi j'ai choisi Dusan Vlahovic pour la simple et bonne raison que on a un chantier et il est varié. Il n'y a pas qu'un poste, on n'a pas qu'un poste à fournir. Et que l'on vende Mbappé ou non, on n'aura pas la même masse sur le transfert pour le faire, que ce soit en termes de salaire et de transfert. On sait que le PSG veut aussi recruter Bernardo Silva, on sait que le PSG n'a pas fini son mercato, qu'il y a d'autres recrues qui doivent être enregistrées. Et à un moment, ben, même si j'aime beaucoup la piste Osimhen, ben, si tu l'achètes pour 160 millions, ben, tu grilles tes autres pistes. Et Harry Kane, ben, moi, selon mon avis, ça reste mon avis, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi, je pense qu'Harry Kane, il ne voudra pas aller jouer en Ligue 1. Pour quitter la Première Ligue. Je pense que le Bayern, ça peut l'intéresser, le Real Madrid peut l'intéresser, les autres clubs de Première Ligue comme Manchester United peuvent l'intéresser. S'il n'a pas contre le PSG, je ne pense pas qu'il y ait quelque chose contre le Paris Saint-Germain, mais je pense que c'est plus le championnat qui lui pose un petit peu problème. Et quand je lis toutes ces données, ben Gonçalo Ramos, ça va être plus cher que Vlahovic. Jonathan David, ça va être le même prix. Et João Félix, c'est pas un neuf. Donc du coup, quand je prends toutes ces données, ben moi, je fais le choix de Vlahovic parce que ça te permet d'avoir un neuf pas trop cher, mais qui en même temps a certaines caractéristiques dont on a besoin à ce poste. Et ça nous permet aussi de mettre beaucoup d'argent ben, sur les autres postes pour lesquels on a des besoins, notamment le 8, l'ailier droit et tous les autres postes que de toute façon, on va aborder dans les prochains jours sur Paris Central.
Alors, moi, spontanément, si Mbappé reste, je signe aussi Vlahovic avec cet immense bémol de on est en train de s'adapter à un joueur qui peut partir dans un an et du coup à devoir reconstruire tout un tas de choses derrière. Parce que se retrouver dans la même situation que la Juve en mettant seul Vlahovic devant et grosso merdo, hashtag c'est le plan, ce serait pas très très intelligent. Et en cas de départ de Mbappé, bah, je vais pas être surprenant, hein, je vais être comme beaucoup de gens, je craque le billet pour Osimhen. Alors j'espère que c'est un peu moins cher que 160 millions quand même. Ce serait un peu, je pense qu'il y a moyen d'aller un peu moins cher que ça. Je pense plus dans les 130, 140. Mais pourquoi? Parce qu'avec Osimhen, t'as l'attaquant moderne qui est capable lui d'occuper tout le front de l'attaque. Il manquerait effectivement un 8, mais tu mets Bernardo Silva avec. T'as Bernardo Silva, Osimhen qui les quelques fois où Osimhen est en une possibilité de faire des passes, mais Bernardo Silva est toujours bien placé pour les recevoir. La majorité du temps, bah, Osimhen est très bien servi. Il est capable de faire des appels de loin. C'est vraiment l'attaquant complet qui est bon de la tête, qui est bon défensivement, qui apporte tout. Alors bien sûr, hein, Kane, je ne rentre même pas dans les détails, il y a et le joueur, et ensuite de ça, le club, et le fait que c'est un joueur qui est extrêmement demandé, extrêmement recherché, et on n'est pas les seuls sur dessus, et voilà. Et pour Osimhen, bah aussi, si on met beaucoup de joueurs, beaucoup de clubs pourraient être intéressés, mais si le club qui met le prix, par contre, pourrait l'avoir. Et du coup, si Mbappé part, moi je prends Osimhen parce que je loque l'avenir de cette manière-là. C'est un joueur jeune enfin, qui est jeune, qui est plus si jeune maintenant, mais qui n'est pas encore vieux, loin de là, et qui pourrait être très utile sur de nombreuses années.
En tout cas, merci d'avoir suivi ce petit podcast. C'était le premier face-à-face, c'était Drias contre Tonton. N'hésitez pas à donner votre avis. Vous êtes d'accord avec qui? Avec Drias, avec moi, peut-être avec personne. N'hésitez pas à donner vous aussi dans les commentaires votre avis. Merci en tout cas d'avoir participé à ce débat. Et n'oubliez pas, ici c'est Paris.